parabole qu'on appelle la parabole de l'intendant infidèle, c'est une parabole bizarre. Vous allez voir pourquoi quand je vous la lirai tout à l'heure. Et les paraboles, c'est toujours assez étrange. Il y en a qu'on comprend bien. La parabole du semeur, on la comprend. Mais Jésus en a donné toute l'explication à ses disciples qui disaient, mais ça veut dire quoi? Et Jésus, patiemment, leur dit, ben voilà, voilà ce que ça signifie. Et puis ensuite, ils étaient satisfaits. Et d'autres paraboles sont données sans autre explication. Et au fond, c'est comme si Jésus disait, ben, ceux qui peuvent comprendre, tant mieux pour eux, puis les autres, ben, ma foi, voilà, ça ne va pas marcher. Alors ici, cette parabole de l'intendant infidèle, il faut qu'on puisse la regarder et puis voir comment on va pouvoir la comprendre, l'interpréter. On en est réduit à essayer de comprendre cette parabole d'après ce qui l'entoure, pour l'éclairer et puis nous guider dans la bonne compréhension. Et souvent, quand on lit la Bible et qu'on ne comprend pas très bien un passage, ça vaut la peine de voir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, parce que, ou quels sont les passages qui nous y font penser, auxquels on pense en lisant ça, parce que de cette manière-là, on a des éclairages supplémentaires qui nous permettent de mieux comprendre. Alors, le contexte de cette parabole, eh bien, elle fait partie de l'enseignement de Jésus. Et c'est dans Luc 16, donc dans l'évangile de Luc. Et puis, il y a le contexte immédiat. Jésus a enseigné ses disciples. Là, il est en train, ils sont en route vers Jérusalem. C'est-à-dire que la passion, c'est pour dans pas longtemps. Et Jésus a déjà beaucoup enseigné ses disciples sur les fondements de la foi, sur les principes de base, ça c'est connu. Et à la fin de l'évangile de Luc, il donne encore des enseignements complémentaires sur des questions, des questions de détail qui touchent différents domaines. Donc, c'est une parabole prononcée vers la fin du ministère de Jésus. Les principes généraux de la vie chrétienne sont posés. En principe, les disciples les ont assimilés. Et puis maintenant, il donne encore des détails sur la vigilance, sur la prière, sur le pardon mutuel. C'est une chose. Autre chose, Jésus est parfaitement au clair sur ce qui va lui arriver. Il sait que son sort est décidé, que les pharisiens lui en veulent, et il sait qu'il va vers sa passion. Donc maintenant, il ne va plus ménager ses adversaires non plus. Dans l'évangile de Luc, avant cette parabole, on a celle de la brebis égarée ou de la drachme perdue. Il y a aussi la parabole du fils prodigue. Et ces trois paraboles nous parlent de la vie nouvelle qui est donnée par Dieu à ceux qui se laissent trouver par Jésus, par le bon berger, à ceux qui reviennent au Père dans la repentance. À la suite de la parole que je vais vous lire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a celle du mauvais riche, une parabole qui dénonce le mauvais emploi des biens que Dieu avait confiés à cet homme, qui montre aussi les conséquences de ce mauvais usage. Et donc, on se dit, ben, on aura peut-être ici un enseignement positif sur le bon emploi de la vie nouvelle, sur le bon emploi des biens que Dieu nous confie. Et puis, le contexte immédiat, donc juste avant, juste après, donne encore d'autres précisions parce que juste après la parabole, au verset 9 à 15, on les lira tout à l'heure, Luc rapporte un discours de Jésus sur l'emploi des richesses et la première phrase, ce sera le verset 9, reprend l'enseignement essentiel de la parabole. On va voir que les pharisiens réagissent assez mal à cette explication. Autrement dit, c'est une parabole par rapport à ce que je viens de dire, dont la vérité centrale est certainement celle-ci, l'emploi des richesses, l'emploi des biens que Dieu nous confie. Comment bien employer tout cela? Alors, lecture de la parabole. Luc 16, versets 1 à 8. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire ? Puisque mon maître m'enlève la gestion de mes biens. Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux, dans leur maison, quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, » répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu, voici ton mandat, en quelque sorte. Assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? Je dois 100 mesures de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Voilà cette parabole. On va regarder toutes ces choses d'un peu plus près. Verset 1, un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Un homme riche. Si on se rend compte qu'une parabole utilise une image humaine pour dire des choses de Dieu, qui est l'homme, entre guillemets, le plus riche qui soit, c'est Dieu. En fait, et là, la Bible, elle est formelle. Tout ce qui existe, nous compris, appartient à Dieu. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ceux qui l'habitent, dit le psaume 24 au verset 1. Et donc, les richesses, tout ce qui existe, la terre, l'univers, appartiennent à l'Éternel, à Dieu. Ok. Et puis, et mes biens à moi, par exemple. Mon argent. Ah ben, il y a aussi une réponse. C'est dans Agé 2,8. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, si cette parabole doit nous enseigner le bon usage des biens, il faut savoir d'abord que tous nos biens et nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Un homme riche avait un intendant. Avait un intendant. Ah bon. Si Dieu est l'homme riche, qui sont les intendants qu'il a ? C'est nous. C'est-à-dire que dans notre vie, dans ce monde, nous sommes là comme des gérants, comme des gens qui ont la responsabilité de bien gérer les biens qui nous sont confiés. L'argent, les possessions, les maisons, que sais-je, les champs. Nous sommes des gérants. Et c'est une idée, c'est un point qu'il faut garder à l'esprit pour la suite. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Autrement dit, Autrement dit, il y a des gens qui surveillent ce que fait l'intendant, qui vérifient, qui se rendent compte, ah ben tiens, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui disent, mais ça ne joue pas, on va peut-être aller le dire aux responsables. Ça se passe parfois pour de bonnes, parfois pour de moins bonnes raisons. Mais toujours est-il que le maître est averti que son intendant gaspille ses biens. Ok, c'est bien. Verset 2, il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. Un jour, nous, les gérants des biens de Dieu, nous allons être appelés à rendre compte de la manière dont nous les avons gérés. Et un jour, on ne pourra plus gérer ces biens parce qu'on va en fait mourir. Je pense que là, il y a un peu comme une image du jugement. Un jour, finalement, ce sera fini, et puis il faudra voir dans quelle mesure on les a gérés correctement. Et c'est une idée qu'on trouve à plusieurs reprises dans la Bible et dans le Nouveau Testament, c'est que, effectivement, par exemple, dans la parabole des mines ou des talents, il y a quelque chose comme ça. Ici, dans Luc 19, 15, lorsqu'il fut de retour, cet homme qui était parti dans un pays lointain pour être investi de l'autorité royale et qui avait donné des talents à ses serviteurs, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Donc on a reçu quelque chose, ce n'est pas toujours des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est des savoir-faire, des talents, une formation, que sais-je, et à un moment donné, il y a un moment, il y a une situation où on aura à rendre des comptes. Et là, l'intendant de la parabole est bien embêté. L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ?» Il se préoccupe de son avenir, là. Et là, tout à coup, il y a des moments où on se dit, « Ouh, t'as voir, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'ai fait les choses comme j'aurais dû ?» Et il essaye d'examiner les solutions possibles. Il essaye de voir de quelle manière il pourrait s'en sortir. Et il commence par faire l'inventaire des solutions qui sont inacceptables. Travailler la terre, je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Mendier, c'est la honte. Je ne vais pas faire ça. Il faut que je trouve une autre solution. Il est dans l'urgence. Il doit orienter ses pensées vers le présent. Avant, il était confortablement installé dans un futur incertain. Et puis, peut-être qu'effectivement, il en est de même pour nous. Nous ne trouvons le bon emploi de l'argent qu'à partir du moment où nous nous rendons compte du temps limité pendant lequel la gestion de nos biens est encore entre nos mains. Avant de comparaître devant le maître pour lui rendre des comptes, parce que aussi, nous voulons assurer notre avenir. Verset 4 et suivant. Je les relis. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, » répondit-il. « Voici ton reçu, assieds-toi, écris 50. » Alors d'après ce que j'ai compris, ces tonneaux d'huile d'olive, ils font 36 litres, et donc c'est 3600 litres d'huile d'olive. C'est pas juste trois bouteilles, hein, c'est du costaud. Et tout se passe comme si effectivement le maître avait passé commande d'une certaine quantité d'huile d'olive et puis donné une avance, etc., pour que la personne puisse faire son travail et les lui livrer. Ah ben non, ben écoute, 100, mais tu mets 50. Et puis pour le blé, combien dois-tu ? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il, et il lui dit, voici ton reçu, écrit 80. Et les mesures de blé, là, c'est les 100 mesures, c'est des mesures de 360 litres, ça fait 36 000 litres de blé. Donc c'est considérable. Et la réduction, la charge est considérable pour les gens qui disent, ah bah tiens, écoute, tu mets moins, et puis ça va être comme ça. Ça ira. Et il se dit, de cette manière-là, quand j'aurai perdu mon emploi ici, je saurai où aller, je serai reçu dans les maisons de ces gens-là. Et j'assure mon avenir. Il a encore tout juste la gérance légale des biens de son maître. Il se sert de sa position pour diminuer la charge des débiteurs de son maître et pour s'en faire des amis. Et curieusement, et c'est là qu'on se dit, mais c'est cette solution que Jésus nous recommande pour l'emploi de nos richesses. Il faut prendre l'exemple sur ce filou. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Voilà la pointe de la parabole. Jésus nous demande d'utiliser les richesses d'une manière à nous faire des amis. Au fond, dans ce verset, on voit que l'intendant a été habile. Et c'est cette habileté qui est donnée en exemple aux disciples. Les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Il y a un contraste entre ces deux sortes d'enfants, les enfants de ce siècle, les enfants de ce monde, et les enfants de la lumière, c'est-à-dire les enfants de Dieu, nous. Alors qu'est-ce qu'on devrait prendre comme exemple sur ce filou pour nous ? Voilà la question. Les enfants de ce monde, ils sont plus habiles, ils sont plus logiques, ils sont plus cohérents, ils sont plus conséquents, ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent s'enrichir, ils veulent mener une vie agréable et confortable. Ils ont un seul but dans leur vie, amasser beaucoup d'argent pour leur confort, pour leur jouissance, et toute leur force, ils les consacrent à ça. Et nous ? Les enfants de la lumière. Nous savons un certain nombre de choses que j'ai déjà expliquées aussi, que nous ne sommes pas propriétaires des biens qui nous sont confiés, que nous en sommes les gérants, et que nous devons, premièrement, rechercher le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que nous mettons la même énergie? Est-ce que nous mettons la même détermination à travailler dans ce but-là que ne le font les enfants du monde pour s'enrichir ? Est-ce que nous faisons tous nos efforts pour faire avancer le royaume de Dieu ? Et est-ce que c'est notre priorité centrale ? Ou pas ? Et puis, je vous laisse répondre. Je sais ce qu'il en est pour moi aussi. je comprends qu'effectivement, il y a là une interpellation forte que Dieu nous fait. On dit, mais où est votre priorité? Et nous sommes tellement plongés dans ce monde-ci, dans lequel la question des richesses, de l'abondance, de la vie agréable sont valorisées sur tous les tons, que c'est difficile de se défaire de cette mentalité-là pour retrouver la mentalité du royaume. Mais là, il y a un appel de Jésus qui me paraît important. Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Nous avons actuellement des richesses. Nos richesses sont des richesses impures, dit le texte. Injustes, pardon. Des richesses injustes. Le texte original dit le mammon d'iniquité. Qui est la puissance qui gouverne la finance, l'argent et tout? Pour Jésus, c'est mammon. Et c'est une puissance mauvaise, très puissante, très, très costaud. Ça doit être un des lieutenants principaux de l'ennemi. Il a un pouvoir très, très, très fort. Et les biens que nous avons, les richesses que nous avons, si nous examinons comment nous les avons acquises, il y a peut-être parfois des raccourcis qu'on a pu prendre, une gestion pas toujours hyper exacte de la feuille d'impôt. Pour prendre juste un exemple, hein. Ou bien, je gare ma voiture. Je sais que c'est 2,20 francs de l'heure en général à Bienne. Est-ce que je suis toujours exact à mettre? Oui, il va venir personne. Allez, je les mets, hein. Et puis, peut-être pas toujours. Mais c'est une petite chose. C'est une petite chose. Et puis, il y en a d'autres. Peut-être qu'on a accepté un cadeau pour favoriser une personne dans telle situation. Et puis. Je veux dire, maintenant je suis retraité, je peux m'en ficher, hein, je reçois ma retraite. Mais nos caisses de retraite, elles investissent notre argent dans des sociétés qui font des bénéfices. Dans l'énergie, peut-être dans le pétrole, peut-être dans l'armement, peut-être dans des entreprises qui utilisent des enfants comme travailleurs ou des choses comme ça. Et donc, on croit qu'on a de l'argent juste. Alors c'est juste, on reçoit l'argent qu'on doit recevoir, mais il est entaché d'injustice aussi. Et avec ces richesses injustes, Jésus dit, faites-vous des amis. Pendant qu'elles sont là, parce que quand elles viendront à vous manquer, vous irez où? Quels sont les amis qui vont vous accueillir dans les maisons éternelles, dans les tabernacles éternels? Et là, pour comprendre qui sont ces amis, ou aller un peu plus loin dans la compréhension de ça, je vous propose quelques versets complémentaires. Par exemple, ce 2 Corinthiens 2, 9, versets 12 à 14. Il est question de collecte où Paul avait eu le souci des pauvres de Jérusalem et il a demandé aux chrétiens des autres églises de contribuer, de donner de l'argent pour venir au secours des pauvres de Jérusalem. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous, parce qu'ils ont une vive affection pour vous, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Les églises qui ont contribué à cette collecte pour les pauvres de Jérusalem, les gens dans ces églises eh bien, se sont fait des amis. Se sont fait des amis auprès des saints, auprès des pauvres, qui prient pour vous, qui sont reconnaissants. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas comptable directement sur une feuille de, sur un tableau Excel, mais c'est une réalité dans les cieux. Ou encore, Matthieu 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus a souvent des paroles extrêmement radicales. C'est ou bien, ou bien. Entre deux, c'est plus difficile. Il demande qu'on fasse des choix assez radicaux. Encore un verset dans le même ordre d'idée. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Il ne leur est pas reproché d'être riche, mais d'investir avec discernement, si on peut dire. Alors là, c'est un enseignement de Jésus qui est assez particulier. On a compris maintenant, je pense, que cette parabole ne nous demande pas d'être des filous, mais d'être aussi déterminés, aussi décidés pour le royaume de Dieu que ne le sont les filous pour leur enrichissement personnel. Hein ? Je crois que ça, c'est bien compris. Et juste après ce qu'on a compris maintenant, il y a encore quelques versets qui continuent l'enseignement de Jésus sur ces questions de bien, des biens. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ça, c'est aussi un verset qui est pas mal, celui-là. Hein. Donc, je crois qu'on est encouragé à être attentif, à être juste dans les petites choses, à être fidèle dans les petites choses. Et c'est l'image de la fidélité qu'on aura ensuite dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, dans les mammons d'iniquité, hein, qui vous confiera les véritables ? On est dans une situation, j'ai parfois l'impression que la vie humaine, c'est une espèce de stage qu'on fait, un stage de qualification pour voir si on aura la possibilité plus tard, si Dieu aura la possibilité plus tard de nous confier certaines choses du royaume qui sont importantes à ses yeux, que nous ne connaissons pas encore, mais au fond, on est testé. C'est ça, une épreuve. J'en ai fait passer assez à des élèves pour savoir que c'est des tests. On veut savoir ce qu'ils ont dans le ventre. On veut savoir comment ça marche, s'ils ont compris, s'ils ont acquis certaines choses. Hein. Tous les enseignants savent ça, et puis les élèves aussi. Alors on peut essayer de pougner, on peut essayer de trouver des... On peut un peu tricher, regarder sur le voisin, mais... On est là dans une... Oui, on est testé. Dieu nous éprouve pour voir ce qu'on veut et ce qu'on vaut. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, parce que les biens ne sont pas exactement à nous, qui vous donnera ce qui est à vous ? Parce qu'on en recevra d'authentiques et de véritables dans l'au-delà. Donc il y a un enjeu important. Et la conclusion, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Ici aussi, c'est ou bien. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Choisis ton camp, camarade. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Voilà, quand je disais que Jésus ne ménageait plus ses adversaires vers la fin de son ministère parce qu'il savait où il en était, on le voit ici, c'est paf. Il leur dit exactement les choses qui sont la vérité. Et c'est des vérités qui sont difficiles à entendre parce que bon, c'est les pharisiens, c'est les 2000 ans, les pauvres, hein, qu'est-ce qu'ils ont. Bon, on est tous un peu pharisiens. Enfin, peut-être pas tous, mais moi je sais que je peux l'être. Alors voilà cette parabole, ce message un peu rude que Jésus nous donne et nous donne à comprendre. Moi je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on s'interroge chacun, qu'on prie, puis qu'on dit, ben voilà, Seigneur, montre-moi quel est le chemin que tu as pour moi, avec les talents que tu m'as confiés, avec les richesses que tu m'as confiées, avec ces situations dans lesquelles tu m'as mise. Merci parce que tout cela correspond à une situation qui a un but, et je veux connaître quelle est ta volonté pour moi dans cette situation, afin d'être à ton service correctement. Hein, parce que on a chanté tout au début le premier cantique « Je te donne tout ce qui est à moi » ou quelque chose comme ça. Alors, alléluia, tout va bien. On est bien. Je vous termine sur un des versets clés. Dans une traduction, c'est celle de la traduction « Parole de vie » qui est encore un peu plus cash, si je peux dire, que la précédente. Et moi je vous dis Jésus, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, ainsi quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. J'ai trouvé que cette traduction, elle simplifie un peu les choses, mais elle va droit au but que Jésus voulait nous faire comprendre. Et je pense que on s'est compris, vous m'avez compris. On va prier pour conclure.